dirige le département des négociations documentaires du consortium contraint. Donc en fait, je vais vous donner quelques éléments de contexte sur les général et vous expliquer aussi ce que c'est que le consortium contraint, comment il fonctionne, comment on organise nos négociations, et puis quelques résultats des négociations 2013, des tendances générales, et après je vais faire un petit focus sur la négociation SDR. Donc là, j'ai rassemblé sur cette diapositive l'avis des conseillers en investissement. Donc ça, c'est une présentation, ce sont des informations que j'ai récupérées d'une présentation faite par BNP Paribas, je crois. Donc oui, ils rassemblent toutes les informations pour pouvoir conseiller les investisseurs dans quel secteur investir, et leur avis sur le secteur de l'édition scientifique est tout à fait enthousiaste. Donc vous voyez ce que c'est que l'édition scientifique, c'est d'abord un business. Et c'est un business vraiment sans risque, notamment du fait du peu de réaction des usagers. Donc ça, c'est bien ce qui est écrit et ce qui est dit. Usagers peu réactifs, donc pas de désabonnement, donc une perspective de croissance permanente. Des usagers non seulement peu réactifs, mais aussi captifs, et en même temps d'excellents gestionnaires, qui savent accroître la rentabilité de leur entreprise en visant principalement les marchés émergents et en diminuant les coûts de production, notamment en délocalisant un certain nombre de prestations. Voilà. Donc je pense que cette diapositive, en tant que chercheur et producteur de cette information, vous intéressait, et je pense que vous savez où placer votre argent l'année prochaine. Alors, je n'ai pas les chiffres consolidés pour 2013, donc je vous donne les chiffres 2012 parce que cela, je les ai vérifiés. Voilà. Donc, vous voyez aussi les revenus. Donc, pour Elsevier, vous voyez, l'action a augmenté, a subi une augmentation de 36,8% en 2012. Mais les sociétés savantes aussi ont des revenus importants puisqu'elles arrivent à mettre de l'argent de côté. Et cet argent mis de côté suscite souvent des interrogations, notamment des membres de ces sociétés savantes. À quoi sert toute cette masse d'argent placée et qui rapporte aussi la société. Donc vous voyez, les histoires de revenus, ça concerne tout le monde. Et il n'y a pas que les éditeurs commerciaux qui soient de bons gestionnaires. Alors, quelques chiffres aussi sur le coût de l'information scientifique. Ça, c'est un chiffre qui vient des collègues de l'Association des bibliothèques de recherche de l'avenir. Donc, qui montre une augmentation de 402% du coût des revues scientifiques entre 1986 et 2011. La courbe s'arrête en 2011, mais j'ai trouvé la suite. Donc ça, c'est un autre tableau que j'ai pris d'une revue, donc j'ai oublié le nom, j'ai ça quelque part. Donc ça, c'est une évaluation fine des taux d'augmentation des revues qui sont indexées dans le Web of Science, dans le Web of Science. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui est en rouge en bas que vous ne voyez pas, c'est le pourcentage moyen de changement, le taux d'augmentation, toutes disciplines confondues. Augmentation de 6% en 2012, augmentation de 6% en 2013. Donc vous voyez la tendance des coûts des revues. Ce qui confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Autre élément intéressant, c'est que les éditeurs commerciaux, notamment, ne se contentent pas, mais aussi certaines sociétés savantes, ne se contentent pas de revendre aux chercheurs universitaires le produit de leur travail. C'est surtout auprès du secteur privé qu'ils en tirent le profit le plus important. Donc là, on a un tableau où vous voyez plutôt des éditeurs commerciaux, hein, donc, notamment Ril Elsevier, vous voyez que 67% du revenu de Ril Elsevier vient des entreprises. Notamment tout ce qui est entreprise pharmaceutique. Mais je peux dire aussi notre société savante comme I3E tire des bénéfices colossaux de la revente de cette information produite par vous à des entreprises en électronique, Airbus, EADS, etc. Donc ce sont ce que vous donnez aux éditeurs, ce que vous donnez aux publishers, vont beaucoup à une très grosse valeur marchande. Il faut vraiment que vous en soyez conscient. Alors, quel est le modèle économique qui est en train de se mettre en place aujourd'hui de la part des gros éditeurs commerciaux, des publishers? Ils sont en train de faire évoluer le modèle économique et considèrent que la tendance n'est plus un abonnement à des revues, mais un abonnement à une base de données. Donc, on nous explique que l'avenir, c'est le streaming. Ce dont ont besoin les chercheurs, ce n'est pas avoir accès à une collection de revues, mais c'est d'avoir accès à un flux d'informations, donc en streaming. Hein, et la propriété de l'information n'est plus un enjeu pour les chercheurs, c'est une citation d'Elsevier. Hein, ce qui compte, c'est l'accès permanent. Voilà. Si vraiment on est conservateur, on peut racheter les archives. Donc avant, quand on avait un abonnement papier, on avait les archives, compris dans le coût de l'abonnement. Maintenant, on ne les a plus. Si vraiment on y tient, on peut les racheter. Alors, par exemple, dans le cas d'Elsevier, avant négociation, le tarif pour racheter les archives de l'année, donc je m'abonne à un bouquet de revues. Si j'arrête mon abonnement, je n'ai plus accès à mon année d'abonnement, c'est ça que ça veut dire. Si je veux conserver l'accès à mon année d'abonnement, je dois la racheter. Hein, 15% du prix d'abonnement. Alors, dans certains cas, la situation est un peu plus favorable. Alors, certains éditeurs rendent possible un accès aux revues après des abonnements. C'est ce qu'on appelle l'accès post-cancellation. Je m'abonne pendant 10 ans à un bouquet de revues. Au bout de 10 ans, je n'ai plus les moyens de maintenir l'abonnement. Je conserve quand même un accès aux 10 années précédentes, à mes 10 années d'abonnement, hein, sous condition. Certains éditeurs aussi, comme les sociétés savantes, permettent le rachat des archives, mais uniquement pour ce qu'ils appellent archives historiques, c'est-à-dire les archives antérieures à 1995. Souvent, il est impossible de racheter les archives de 2000-2010, par exemple. Dans ces cas, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ces données, vous ne les récupérez pas, en principe, elles restent accessibles, elles restent stockées chez l'éditeur, chez le publisher. Certains publishers font partie de dispositifs de conservation pérenne, comme par exemple le dispositif Portico, donc, qui va abriter des copies de sécurité. Des bibliothèques nationales aussi peuvent abriter des copies de sécurité, mais ces copies de sécurité ne sont accessibles que sous conditions drastiques, et particulièrement en cas de défaillance de l'éditeur, du publisher. Voilà, donc vous voyez que la conservation des archives a l'air d'être un enjeu important pour les éditeurs, puisqu'ils ne veulent pas nous les donner. Donc, finalement, pour conclure, aujourd'hui, l'abonnement ne donne plus qu'un droit d'accès temporaire sur l'information. On n'a plus le droit de propriété que nous avions auparavant. Si on se désabonne, on perd tout ce à quoi on avait accès. Sauf si on accepte de repayer. Et dans la plupart des cas, cette information, de toute façon, reste archivée sur les serveurs des éditeurs publishers, certains étant entreprises privées et quasiment dans tous les cas situés à l'étranger. Donc l'abonnement maintenant c'est le droit de lire pendant un an. Ce qui fait que l'éditeur publisher se retrouve en position de monopole, comme avant il a le monopole de la diffusion, mais en plus maintenant il a le monopole de l'archivage, ce qui n'était pas le cas. Parce que l'archivage était assuré par un réseau de bibliothèques publiques. Certaines nationales, d'autres universitaires. Maintenant, c'est l'éditeur qui se retrouve au centre de l'archivage. Et la conservation du patrimoine scientifique, qui est financée, hein, la constitution de ce patrimoine est financée sur fonds publics, mais sa conservation est assurée aujourd'hui, si on y prend pas garde, par des éditeurs commerciaux localisés à l'étranger. Et troisième point, cette augmentation continue des coûts. Hein, on pense toujours que ce sont les bibliothèques qui payent. Les bibliothèques, elles ne sont qu'une partie d'une université ou d'une école. Hein, donc le budget qui va dans les bibliothèques, c'est au départ le budget de l'institution qui va consacrer une partie de plus en plus importante à l'achat de documentation. Donc c'est pas la bibliothèque qui paye, c'est l'institution, donc c'est vous, c'est les chercheurs. Et si cette part augmente, à budget constant, ben, ce sont les moyens consacrés notamment à la recherche qui diminuent. Voilà. Donc il faut être conscient aussi que l'augmentation des coûts, c'est une menace pour tout le monde, et notamment pour la recherche. Alors, maintenant une présentation, donc ça c'est contexte général, une présentation rapide de contrat, hein, pour vous expliquer ensuite comment nous allons essayer de négocier les tarifs pour pouvoir les tarifs d'accès à ces informations scientifiques. Donc Couperin, c'est un consortium d'établissements. Ce n'est pas un consortium de bibliothèques. Ce sont bien les institutions qui en sont membres. Donc créé en 1999. C'est un point très important parce qu'à l'étranger, il existe des consortiums de bibliothèques. Nous sommes vraiment un consortium d'établissements. Donc qui compte aujourd'hui 242 membres de toute nature. Des universités, des CHU, des la BNF, des bibliothèques de musées. Et nous gérons une centaine de négociations par an. Donc notre mission, c'est de négocier les tarifs, de négocier des conditions de service pour nos membres, à la demande de nos membres, en tenant compte des contraintes financières de nos membres. Mais on n'achète rien. C'est une différence avec d'autres consortiums. Le JISC en Angleterre achète une partie, pas tout, mais il peut acheter aussi. Donc l'organisation, je vais être assez rapide. Donc il y a un conseil d'administration qui est composé de présidents d'établissement. Et le président du conseil d'administration est élu, c'est un président, un ancien président de l'université. Et à côté de ce conseil d'administration, il y a le bureau professionnel qui est composé, lui, de professionnels de l'information scientifique et technique. Nous sommes tous élus pour 3 ans. Et ce bureau est coordonné lui-même par un conservateur, bon, un professionnel qui se trouve en ce moment être un conservateur, ça peut être un documentaliste, ça peut être quelqu'un d'autre. C'est un professionnel de l'information scientifique, ça c'est important. Donc les membres du bureau professionnel sont élus pour 3 ans, ils peuvent faire 2 mandats maximum. Donc ce qui est important, l'esprit, c'est que tous les établissements s'impliquent dans la gestion du consortium et qu'il y ait des changements. Ça, ce sont des points importants. Donc après, il y a 2 départements, le département des négociations documentaires dont je vous parlais, et le département services et prospective. Chaque département est dirigé aussi par un professionnel membre du bureau. Professionnel, donc élu pour 3 ans, et chaque département est aussi doté de 2 agents permanents. Alors, comment organisons-nous les négociations? Donc, elles sont gérées par le département des négociations. C'est pas trop petit, vous y voyez? Alors, donc, le chef du département, c'est mon travail, est chargé d'évaluer les tendances budgétaires. En fait, on va d'abord évaluer les contraintes des établissements, les contraintes et les besoins des établissements. Nous sommes nous-mêmes tous des bibliothécaires qui travaillons dans un établissement, puisqu'on fait ça en plus. Donc, nous sommes vraiment une émanation des établissements, c'est ça qui est important. Donc, on commence d'abord par évaluer les tendances budgétaires. Je pilote la rédaction de la lettre de cadrage qui va fixer les objectifs des négociations. Et c'est une rédaction collective qui implique l'ensemble des négociateurs. Je m'occupe aussi de informer les négociateurs. De la coopération internationale, c'est un point fondamental et qui prend beaucoup de temps. Les échanges internationaux, les échanges avec les autres consortiums, nous savons à peu près tout sur tout, sur tous. J'ai des tableaux avec les tarifs payés pour telle ou telle ressource par les Anglais, les Allemands, les différents consortiaires régionaux allemands, les Espagnols, et pareil, les consortiaires régionaux, etc. Donc, de manière à pouvoir mieux cadrer nos propres négociations. La communication extérieure quand il le faut, de temps en temps, rédiger un communiqué de presse, faire un petit peu d'agitation avec des journalistes. Et je prends le relais en fin d'année quand certaines des négociations sont bloquées. Ensuite, il y a 6 pôles de négociation qui correspondent chacun à une discipline et qui sont coordonnés par un chef de pôle. Tous les chefs de pôle sont des professionnels bénévoles, ils ne sont pas obligatoirement élus, ils sont bénévoles, qui assurent l'encadrement des négociations, la formation des négociateurs et la validation des offres avant la diffusion. C'est un point très important que les négociateurs ne diffusent pas une offre comme ça, il faut qu'elle soit validée. Et ensuite, une soixantaine, un peu plus, peut-être on n'est pas très loin de 68 négociateurs, qui sont tous des professionnels de l'information scientifique, qui sont tous en poste dans des établissements de l'enseignement supérieur de la recherche et ou de la recherche, et qui sont tous bénévoles. Donc, c'est un point extrêmement important, nous n'avons pas de négociateurs professionnels, payés pour être négociateurs, parce qu'il est extrêmement important que les négociations soient menées par des professionnels dans les institutions, puisque nous sommes une émanation des établissements, donc des professionnels qui soient vraiment au fait d'abord des contraintes budgétaires des établissements, de la vie quotidienne dans un établissement, et des pratiques et des besoins des chercheurs. Et effectivement, quand on compare souvent d'ailleurs les résultats de Couperin avec les résultats de consortiums où il y a des négociateurs professionnels, chez nous les négociations durent souvent plus longtemps, mais on va plus loin au niveau tarifaire. Et nous avons des listes de diffusion de manière à assurer la consultation régulière avec l'ensemble de nos membres. Donc c'est une organisation qui était originale au départ dans le paysage des consortiats, qui donc implique fortement les établissements et qui commence à faire école puisque d'autres consortiats en Turquie ou au Japon ont choisi d'avoir le même type d'organisation que nous. Alors, le processus de négociation, on l'a réorganisé il y a 2 ans. Donc, il commence en année N-1, donc on négocie en année N les abonnements pour l'année suivante. Donc, je négocie en 2013 les tarifs des abonnements pour 2014. Donc, d'abord, en année N-1, on va évaluer les tendances budgétaires. Donc, on lance une enquête au mois d'octobre-novembre, au moment de la préparation des budgets primitifs, on lance une enquête auprès de tout le monde et on va ensuite compiler les données. Les résultats de cette enquête vont alimenter notre lettre de cadrage. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que ça marche. Dans la mesure où chaque année, nous avons des diminutions de budget, nous prenons ces informations. Donc, on s'est posé la question, mais quand les budgets vont augmenter, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va mettre dans la ligne de cadrage? On ne va peut-être pas mettre, vous pouvez aller jusqu'à plus de 10%. Bon, pour l'instant, on ne se pose pas de problème. Vu les tendances budgétaires, on a des arguments de poids. Donc on essaie, dans cette lettre de cadrage, de considérer les éditeurs, publishers comme des partenaires, des prestataires de services pour les chercheurs, donc susceptibles de comprendre les contraintes budgétaires des établissements et dont le souci principal serait plutôt d'abord d'assurer aux chercheurs l'accès à l'information dont ils ont besoin plutôt que de la rentabilité à tout prix. Donc on part sur ce postulat. Et pas toujours, parfois on est parfois déçu, mais on préfère partir sur ce postulat vis-à-vis des éditeurs, essayer de leur expliquer la situation de manière à pouvoir construire une proposition tarifaire qui tienne compte de nos contraintes. Et l'objectif de la lettre de cadrage, c'est effectivement d'expliquer la situation et nos attentes aux éditeurs publishers et aussi de fournir une liste d'arguments pour les négociateurs. Et Donc on rédige le cadrage au mois de novembre et ensuite, novembre-décembre, on a une réunion des négociateurs où on va finaliser la lettre de cadrage, les documents d'accompagnement et lancer le processus de négociation. Ensuite, dans l'année N, on lance les négociations officiellement en début d'année, janvier-février. Donc en principe, la procédure doit être une enquête d'intérêt auprès des établissements. Souhaitez-vous vous abonner ou réabonner? Selon quelles contraintes financières? C'est une question qui peut être posée aussi, jusqu'où pourriez-vous aller? Et on envoie en même temps la lettre de cadrage au publisher. L'objectif étant, dès le démarrage de la négociation, de bien cadrer la situation avec l'éditeur en s'appuyant sur cette lettre de cadrage. L'objectif, c'est qu'un accord se conclue à l'été, mais c'est un objectif qui est quasiment intenable. C'est facile quand on accepte 7% d'augmentation. Si on décide d'avoir 0% ou même seulement 2%, c'est utopique d'essayer de conclure même au mois d'août. Donc le suivi est assuré par des réunions régulières du département avec les chefs de pôle. Et en automne, donc là on fait le point sur les négociations qui coincent. Dans certains cas, on peut envisager le rejet. S'il y a rejet d'une négociation, d'abord on va consulter les membres. Ce sont eux qui ont la décision finale en main. Donc on explique la situation, on dit voilà jusqu'où nous sommes allés, nous ne sommes pas satisfaits du résultat, souhaitez-vous que nous validions la proposition, souhaitez-vous que nous la rejetions. Donc dans certains cas, les membres nous disent vous rejetez, dans certains cas ils disent continuez à négocier, dans d'autres ils disent écoutez nous ça n'est pas validé. Mais c'est l'avis des membres qui va l'emporter à la fin. Et en fin de négociation, on demande, parfois de manière très répétée, un rapport sur la négociation, rédigé par le négociateur, de manière à bien mesurer les apports de la négociation et pouvoir simplement expliquer aussi notre travail à nos membres. Je vous montrerai ensuite les résultats. Donc la coopération internationale est très dynamique, surtout depuis 2 ans. Donc comme je vous disais, nous échangeons, en tout cas moi j'essaie, pas sur toutes les négociations, mais sur un certain nombre de négociations délicates, j'essaie d'échanger de manière constante avec mes collègues, donc sur I3E, APS, AIP, ACS, Royal Society of Chemistry par exemple, Elsevier, Wiley, Springer, on échange de manière permanente. On intervient systématiquement lors des rencontres internationales et on compare nos résultats et nos tarifs. Ça, c'est un point très important. Les éditeurs, publishers disent que tout est confidentiel. Les chercheurs croient qu'on ne s'échange rien. En fait, on échange tout et on sait tout sur tout.
Oui, voilà. Vous ne pouvez pas nous dire à nous.
Alors, je ne peux pas vous dire les tarifs de la Grande-Bretagne. C'est la Grande-Bretagne qui peut prendre la responsabilité. Moi, je ne peux pas vous dire.
Mais même pas les tarifs français.
Bien sûr que si, vous êtes membre de groupe. Hein.
Oui, mais bon, d'accord.
Nous avons le droit à nos membres de donner, d'expliquer quels sont les tarifs et les conditions, bien entendu. Les clauses de confidentialité, elles sont à l'extérieur.
Je peux pas avoir le contrat, je ne peux pas savoir exactement.
Bien sûr que si.
Bon, mais ça, on en reparle.
Vous êtes membre de groupe. Pas de problème.
Pas le droit de le diffuser. Moi, je suis pas.
Mais déjà,
le chercheur, il est. Bon, le contraire, on l'a découvert. Moi, oui. Je l'ai découvert uniquement quand j'ai commencé à m'intéresser.
Mais déjà, si tous les chercheurs de tous les établissements, des 242 établissements membres de contraire ont accès aux informations, je vois pas qui pourrait être intéressé en plus.
Parce que oui, mais ça veut dire qu'il faut le demander quasiment sur une base individuelle, c'est ça que vous nous dites. Donc ça veut dire que chaque chercheur va venir vous trouver personnellement pour vous demander. C'est pas très
pratique. Il y a certaines choses qu'on peut diffuser, par exemple la baisse le fait, mais certains contrats sont. La plupart des clauses sont sur le site web dont on a accès. Après, les clauses confidentielles, qui sont au nombre très très limité, peuvent être demandées. On est diffusé à la demande. Mais l'essentiel du contrat, on est accepté.
Vous pouvez nous dire en quoi sont les clauses confidentielles, ça relève de quoi?
Ça dépend des contrats. Dans certains contrats, il n'y en a qu'une.
Donc, en général, on ne peut pas savoir à la fois le prix des contenus.
On peut savoir le contenu, pas le prix.
Ah, ben le contenu, on sait, ça c'est le
prix. Ça, c'est le contenu, c'est ce qu'on télécharge. Mais en général, il faut bien savoir le prix. Quel prix pour quel contenu?
Bon, enfin, on y reviendra après, parce que sinon, je voulais en parler pour les élire. Alors, les objectifs de 2013, j'ai perdu le micro, donc vous m'entendez. Son premier objectif, contenir au maximum l'augmentation tarifaire. Si on peut obtenir des baisses, c'est parfait. Mais on reste quand même raisonnable. Notre objectif, c'est de contenir l'augmentation. C'est ce que je dis parfois aux chercheurs, mais notre travail souvent, c'est de faire diminuer l'augmentation. De faire en sorte que l'augmentation n'augmente pas trop. Voilà. Ah non, l'inversion de la courbe, vous l'avez dit. Et le deuxième objectif, c'est de devenir plus petit, c'est d'obtenir davantage, et notamment la propriété des contenus souscrits. Pour nous, c'est un point extrêmement important, justement, pour lutter contre ce monopole, et si on capitalise les archives. Ensuite, on peut avoir des arguments supplémentaires pour négocier, parce que quand on négocie un abonnement qui inclut l'antériorité jusqu'en 1995, parce qu'on ne l'a pas. Et quand on négocie un abonnement qui ne concerne qu'une année courante, et que nous, on est propriétaire de toutes les années antérieures, est-ce qu'on n'obéit même plus? Donc, le fait d'avoir la propriété sur les contenus souscrits, c'est d'une part d'assurer une politique d'archivage, mais aussi peut-être plus tard de nous donner des marges de négociation supplémentaires territoriales. Le résultat de l'enquête menée sur les budgets des établissements montre une baisse moyenne des budgets documentaires des institutions d'enseignement supérieur et de recherche en France, donc de 9% en 2013 et de 5% en 2014, ce qui fait moins 14% en 2 ans. Alors, les résultats, on a quand même une situation qui évolue pas trop défavorablement. Donc dans ce tableau, j'ai compilé les propositions validées, les offres validées. Dans la ligne du haut, vous avez celles qui ont une augmentation, qui inclut une augmentation de tarif de 4% et plus. Et dans la deuxième ligne, ce sont les propositions soit sans augmentation, maintien du tarif, ou une augmentation inférieure à 2%. Donc ces propositions-là ont été 25% des propositions validées en 2011, alors que les augmentations supérieures à 4%, c'était 59% des propositions. En 2014, on est à 13%, et 69% de propositions qui ont un tarif, une inflation zéro, ou une augmentation inférieure à 2%. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les 69%, vous avez des gros. Vous avez des gros éditeurs commerciaux. Alors que les années précédentes, les gros éditeurs commerciaux étaient en première ligne. Augmentation supérieure à 4%. Donc ça, ça change. Ça change quand même, ça a un impact, ça a un impact sur les budgets. Donc ça, c'est un progrès dont nous sommes particulièrement fiers, même si nous, ce que nous avons en arrière, c'est avoir une troisième ligne en augmentation avec propositions en diminution. Alors, 35% des hommes, cette année, proposent une inflation nulle, voire un tarif en baisse. Donc, je ne peux pas le traduire en prix, je le sais bien, mais j'ai essayé et c'est risqué. Je ne suis pas sûre des données, donc je ne préfère pas le faire. Donc, deux gros éditeurs commerciaux, YB et Elsevier, proposent une inflation nulle. C'est un progrès énorme. Et cette année, les plus grosses augmentations en fait, sont faites des sociétés savantes. Alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Autre constat, les propositions nous parviennent de plus en plus tard. C'est-à-dire que maintenant qu'on a fait un calendrier plus serré, qu'on voudrait valider au maximum à l'été, on dirait que les éditeurs, les publishers, au contraire, eux, ont décidé qu'ils fourniraient leurs tarifs uniquement en septembre. Donc, les propositions arrivent de plus en plus tard, les négociations sont de plus en plus longues, et je suis de plus en plus obligée de prendre le relais en fin d'année pour essayer de débloquer ou de rejeter, ça dépend, un certain nombre de propositions qui sont conflictuelles parce qu'on a des augmentations supérieures à 10%, 10%, et qu'on ne peut pas diffuser ça au 13 novembre puisque ça ne correspond pas à leur accord. Autre constat, c'est souvent le recours à un contrat pluriannuel qui permet de débloquer des situations. On n'est pas les seuls à le constater, hein, c'est pareil dans le monde entier. Et point positif, là en revanche, on est les seuls dans le monde, la propriété et la livraison des données concernent cette année 4 contrats. Les 3 dont les éditeurs commerciaux, une société savante. Ça, c'est une particularité de la France, donc là-dessus, on intéresse beaucoup nos collègues, parce que lorsqu'ils négocient la propriété des données, c'est uniquement un archivage pérenne chez l'éditeur. Donc nous, c'est vraiment, nous avons la propriété des données, on nous les livre et nous les charge nous-mêmes sur nos serveurs pour en gérer nous-mêmes les archives. On a eu quelques échecs, des sociétés savantes, le JAMA, hein, Journal of the American Medical Association, qui est resté bloqué à 8%, d'augmentation, ça ne représente pas des gros montants, ça ne représente pas beaucoup d'institutions, mais toutes les institutions nous ont dit non, on ne valide pas, par principe. En fait, finalement, à part Springer, ce ne sont que des sociétés savantes. Alors, un petit point, alors je suis désolée, j'ai pris avant l'idée, je n'ai pas retraduit. Je vous disais qu'on demande aux collègues de nous faire une petite évaluation de la négociation. Donc, quel était le taux d'augmentation de proposition initiale et le taux de variation, parce que ça fait une évolution, en proposition finale. Donc, vous voyez, par exemple, pour l'APS, on n'était pas très content, on a réussi à éviter le pire, on avait 12%, on est passé à 7,5%, mais en revanche, on a réussi à éviter le pire pour les années suivantes, 2015 à 2014, en passant à 4%. Pour la Royal Society of Chemistry, là aussi, on partait de très haut, et en revanche, on a réussi à avoir un taux d'augmentation qui reste élevé, mais qui a été validé par nos collègues, donc c'est comme ça. En revanche, on a la propriété sur les données et la livraison des données. C'est un point important, c'est la première société savante. Pour Nature, on a une diminution de coût. Lippincott, on a un taux maintenu, un tarif maintenu à celui de l'année précédente, pareil pour Wiley. Et deux sociétés savantes, le New England Journal of Medicine, donc on avait rejeté la proposition l'année dernière. Parce qu'on avait une proposition finale à 12,3% après négociation, donc elle avait été rejetée. Et cette année, on est parti un peu plus haut, mais on a validé à 5%. Et pareil pour Oxford, où on avait une proposition insoutenable l'année dernière, rejetée, et cette année on a validé à 2%. Parfois le rejet peut avoir un impact pour l'année suivante.
Juste une toute petite précision. Il nous manque quand même des données en valeur absolue parce que vous avez très bien vu, là, ce sont des pourcentages, mais ces pourcentages n'ont strictement rien à voir. Avec l'augmentation, c'est un pourcentage, bien évidemment, mais on part sur des bases qui n'ont rien à voir. Voilà. Il y a certains contrats où ça va valoir 1 et le suivant, ça va valoir 100. Donc une augmentation de 5% sur 1, c'est pas mesuré.
Alors, c'est pas comme ça que l'on compte les universités parce qu'on gère un budget. Et quand le
mais justement, quand vous gérez un budget, voilà. C'est l'enveloppe totale quand même qui est importante et où est-ce qu'on peut faire des économies. Et on peut quand même a priori commencer par faire des économies sur ceux qui coûtent le plus cher. Hein? Et ça, de ceux qui coûtent le plus cher, je suis désolée, à ma connaissance, en facture finale totale, c'est les grosses entreprises multinationales qui appliquent le
d'accord. Même. Alors le problème, c'est que.
C'est vraiment ce voilà. Qu'il faut prendre en priorité dans le collimateur.
Alors, on peut les prendre en priorité dans le collimateur ce qu'on fait. Après, au sein de l'université, quand des présidents d'université, des conseils scientifiques doivent décider de quelles ressources ils coupent et quelles ressources ils gardent, on va tous préférer un grand pluridisciplinaire qui permet de donner un peu à tout le monde. Alors que telle société savante qui ne concerne qu'un public beaucoup plus restreint et qui en plus a une augmentation insupportable, Donc on a l'argument, c'est l'augmentation. Le public qui sera mécontent sera moins nombreux. Donc souvent, c'est ça la réalité aussi. Après, il y a des arbitrages au sein des universités. Si on a une université assez homogène et disciplinairement, c'est plus facile. Mais quand on a une université pluridisciplinaire, on va prendre des arbitrages qui ne sont pas en faveur des sociétés savantes ou des ressources spécialisées en général.
J'ai une autre question de précision.
C'est ce qu'on explique aux sociétés savantes d'ailleurs.
Alors, j'ai une autre question de précision sur les chiffres que vous avancez. Vous dites que l'année en cours, mais maintenant, on a au niveau des grosses des éditeurs publics commerciaux qui pratiquent le bundle, vous dites que là, tout d'un coup, ils ont des très faibles augmentations. Miracle, ça a l'air d'être un miracle, mais c'est simplement parce que, en tout cas, c'est la négociation, hein, vous allez nous parler de Elvire Couperin, apparemment, on est passé de 200 en gros, hein, 200 et des poussières, à 600 établissements, et il se passe que dans les 400 établissements rajoutés, 400 un peu plus rajoutés, on ne leur a pas demandé leur avis, on leur impose. On leur impose de s'abonner à ce bundle de Elsevier, et résultat, en statistique, ben, au lieu de diviser par 200, maintenant diviser par 600, ce qui nous fait une baisse merveilleuse.
Ou un
comment vous avez calculé?
C'est le tarif national, hein, le tarif France, on prend. On regarde le tarif France, indépendamment du nombre d'établissements. Le tarif France sur le même périmètre, c'est ça qu'on compare.
Qu'est-ce que vous appelez tarif France? Vraiment, je connais, expliquez-nous.
Le chiffre d'affaires réalisé par l'éditeur sur le territoire.
D'accord.
Alors évidemment, on va regarder si on a d'une année sur l'autre.
Vraiment l'ensemble. Donc, voilà. On était en 2000, mettons 2011, le tarif France était de temps. Pour 200 établissements, maintenant le tarif France n'a pratiquement pas bougé pour 600 établissements. C'est ça l'état de la négociation.
Je vous en parlerai après. Je vous montre après ça.
Parce que ça, c'est pour la précision.
Mais par exemple, si je prends. On va regarder aussi à périmètre équivalent. Effectivement, si je ne vais pas comparer le tarif France, mettons, de la Royal Society of Chemistry 2013 sur 10 membres et le tarif France sur 20. Je regarde sur le même périmètre. C'est ça que je regarde. Alors, on va parler des aînés. Donc, les négociations ont démarré en mars 2013 et elles ont fait suite, en fait, au groupe de travail donc, qui a été évoqué par Jacques ce matin sur le nouveau modèle tarifaire. Donc, ce fameux nouveau modèle tarifaire qui est révolutionnaire en cela qu'on ne s'abonne plus à un bouquet de revues, mais on s'abonne à une base de données en streaming. Et le protocole d'accord. Un protocole d'accord a été signé le 31 janvier 2014 et là le contrat est en cours de signature. Je ne sais plus où on en est exactement, mais enfin, si ce n'est pas fait, ça va être fait. Alors, cette négociation a été gérée au plus haut niveau. Elle a été pilotée par le comité de pilotage de la BSN, hein, qui inclut des représentants de la CPU, de la CGE, des présidents d'organismes de recherche, présidents directeurs. Et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc c'est eux qui ont fixé les objectifs de négociation. Ensuite, le consortium Couperin, de par son expérience en matière de négociation, a été missionné par le comité de pilotage pour négocier, et les négociateurs étaient soutenus par un comité de négociation qui lui-même était composé de professionnels de l'information scientifique, d'une sélection d'institutions représentatives de toute taille, de toute nature, dont la Bibliothèque nationale de France aussi. Voilà comment l'organisation voilà comment la négociation a été organisée. Donc un comité de pilotage qui fixe des objectifs, instruit par un comité de négociation, les négociateurs sont missionnés, on leur dit vous allez négocier pour tel objectif, et ensuite on rapporte au comité de négociation, au comité de pilotage, à chaque rencontre avec les livres. Alors, quelques points importants. Donc, le précédent contrat nous avait conféré, nous sommes les premiers, je crois que nous sommes les seuls, la propriété des données, de tous les titres de la Freedom Collection, de 2001 à 2013. Donc, nous sommes propriétaires des archives, et les archives nous sont livrées. Les données sont livrées à l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur, elles ont été chargées sur un serveur qui est maintenu par l'INFCNRS, hein, qui donc a fait un gros travail au cours de l'année 2014 pour que tout soit d'aplomb et prêt à fonctionner au 1er janvier 2014. Donc au 1er janvier 2014, grâce au travail de l'INFCNRS, l'ensemble des archives, tous les titres de la Freedom Collection de 2001-2013 étaient accessibles pour tout le monde sur le serveur de l'INFC. Par ailleurs, ça je ne l'ai pas mis là-dessus, nous avions négocié l'achat des archives antérieures. Donc ça c'était dans le cadre de notre projet, projet ISTEX, les archives antérieures à 2001 étaient en cours d'acquisition. Donc on était prêt à fournir l'ensemble de l'information depuis le volume numéro 1 jusqu'en 2013. Et c'était pour nous un levier de négociation extrêmement important. Donc nous étions certains que, étant capables de fournir aux chercheurs une continuité des accès aux archives les plus récentes jusqu'en 2013, on aurait toute latitude pour pouvoir négocier aussi longtemps que nécessaire. Les objectifs qui nous ont été fixés, c'était une diminution du coût, la propriété des données, une licence nationale, donc ça c'est une volonté du comité de pilotage de la DSN, de manière à régler la question des unités mixtes de recherche, ou à ne pas la régler comme on veut, mais de manière à évacuer cette question de double irrigation. Si on a une licence nationale, il n'y a plus de problème d'implication des organismes, des institutions, ça réglait la question. La licence nationale, on ne l'a pas sortie tout de suite quand même à Elsevier, on a voulu voir quand même si on n'arrivait pas à obtenir quelque chose avant d'en arriver là. Autre objectif, c'était stabiliser la collection et sortir de celui d'une base de données, parce que si on accède à une base de données, à des articles, on n'a pas de garantie que le titre phare de 27, par exemple, qui est accessible en 2014, ne sera toujours en 2015. Donc une base de données veut dire que peut-être les contenus vont varier et qu'on n'a pas de garantie qu'on sera démuni si on change de contenu. Donc ça c'est un point important. Et aussi rajouter des clauses concernant l'open access et le texte en data mining. Sur l'open access, on savait qu'il était très 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 difficile puisque tous nos collègues s'étaient cassés les deux avant et qu'on avait une présentation au Conseil international des consortiums en 2013 de la part des Elsevier, on avait compris qu'il n'y avait rien à dire, rien à négocier là-dessus. Alors finalement, après diverses péripéties, dont je vous donnerai quelques informations plus tard, le résultat de la négociation. Donc nous avons un contrat de 5 ans comme tous nos collègues. Nous avons réussi à obtenir la propriété des données. Évidemment, dès le début, Elsevier nous proposait des diminutions de tarifs, ou plutôt des augmentations très 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 raisonnables si on lâchait la propriété des données. Donc ça, on a tenu vraiment, on a dit non, on ne sépare pas l'abonnement et la propriété. On prend un contrat pour l'achat des articles, des titres de la Freedom Collection pendant 5 ans. Donc ça, on a réussi à garder la propriété des données pour conservation et gestion des accès gérés par la France. Donc le périmètre a été étendu à 600 institutions, il y en avait 150 dans l'accord précédent. Mais les institutions qui se sont rajoutées ne payent rien, peuvent ne rien payer, hein, n'ont pas d'obligation en fait à payer quelque chose, à contribuer à la licence nationale si elles ne le souhaitent pas, mais financièrement. Alors on a obtenu la pérennité de la collection, ça a été un long travail au cours des 6 derniers mois. Nous avons déterminé un noyau de titres phares. Quand on a envoyé la liste de 627 titres, on a entendu Elsevier tomber sa chaise, je pense qu'il pensait qu'on allait en envoyer 50. Donc 627, ça a été très difficile hein, de les convaincre de venir. Nous, on est resté sur ces 627 titres, dont la présence est garantie pendant les 5 ans. Sinon, le coût de l'abonnement sera revu à la baisse, on en aura, on défalquera du coup le prix de la revue. Donc on a évacué cette notion de base de données et on est revenu sur un bouquet de revues chaque revue a un prix, et s'il y a une revue qui disparaît, eh bien on ne la paye plus. Alors la cause pour l'open access, c'est un... ça semble tout petit, mais c'est un coin en fait qu'on a enfoncé dans le dispositif, dans la mesure où, pour Elsevier, dans le coût, les tarifs qu'on paye aux abonnements, hein, la question des articles, des prix, etc., n'a rien à voir. Vous ne payez que les contenus souscrits. Hein, les autres, les articles gold, hein, dans le cas des revues hybrides, on peut faire d'un payeur, ils ne comptent pas dans le coût de la revue, bien sûr. Donc on a quand même négocié pied à pied, et on expliquait qu'on rentrait dans un contrat de 5 ans, qu'on ne savait pas du tout comment allait évoluer l'open access, et que si on avait un engouement très fort pour l'open access, et que donc la proportion des articles inclus dans la Freedom Collection en open access augmentait, nous on allait continuer à payer très cher pour des contenus dont beaucoup étaient en fait accessibles en libre accès. Donc on a réussi à obtenir une clause, donc en 2018 on va évaluer la proportion des articles en open access par rapport aux articles qu'il appelle les articles souscrits, les articles payants, et si la proportion des articles souscrits est inférieure selon un certain ratio à l'augmentation des contenus en open access, le tarif sera revu à la baisse. Alors ça a été très compliqué, très long à obtenir, et même quand on l'a obtenu, ils ont essayé ensuite de vider complètement, par des subtilités de rédaction, de vider complètement le contenu de cette clause. C'est une première, parce que c'est... En fait, on a réussi à obtenir des délires qui se contredisent, et qu'ils reconnaissent qu'effectivement, quand on paye un accès à la Freedom Collection, eh bien, l'augmentation de la proportion du nombre d'articles en open access peut avoir un impact sur le tarif, ce qui refusait totalement de revenir. Autre point sur lequel on a progressé, donc les contenus peuvent être utilisés gratuitement, inclus dans le contrat, pour le texte en data mining, notamment, mais pas seulement, via les API, la plateforme Elsevier. Puisqu'au départ, ce qui était exigé d'Elsevier, c'était l'exclusivité de l'utilisation de leurs API, de leur plateforme. Donc, la négociation sur le mot, notamment, un mot, a duré aussi très longtemps. Et je vous donne l'évolution tarifaire nationale. Donc cette évolution tarifaire ne concerne que des établissements qui payaient déjà un abonnement. Hein, donc il y a plusieurs groupes d'établissements. Il y a ceux qui faisaient partie du groupement de commande qui avaient accès à l'ensemble de la Freedom, ceux qui n'avaient accès qu'à certaines parties. Donc ça représente un chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires, voilà son évolution sur 5 ans. Donc on a réussi à obtenir une diminution du chiffre d'affaires en 2014 et en 2015. Donc ce qui veut dire que les établissements abonnés, précédemment, peuvent espérer une diminution de plus. Mais si en plus, parmi les 450 établissements nouveaux, qui seront desservis. Si certains se rendent compte qu'il y a un usage, dans ce cas-là, on leur demanderait une contribution financière qui peut faire encore diminuer le coût pour les abonnés historiques. C'est-à-dire que les nouveaux abonnés, hein, ceux qui ont été inclus dans la licence nationale, on va regarder, ils auront accès gratuitement pendant un temps, et ensuite, il y aura un bilan de l'usage qui est fait, et en fonction de l'usage, soit ils n'ont plus accès, soit ils paieront une contribution s'ils souhaitent continuer. Voilà. Donc, mais même sans tenir compte de ces 440, le coût est en diminution. Et ce qui est important, c'est que le coût est en diminution avec la propriété des données. Ça, c'est un point fondamental. Alors, quelques limites, deux diapos. Donc, les limites, c'est que malgré les assurances que nous avions eues en début de négociation de la part du comité de pilotage, en fait, on s'est rendu compte que l'ensemble de la communauté scientifique n'était pas prêt du tout à se passer d'un accès à la Freedom Collection en 2014. Malgré tout le travail qu'on avait fait pour rendre les archives accessibles, une partie de la communauté scientifique a fait pression pour qu'un accord soit signé avant la fin de l'année, et a expliqué qu'il était hors de question qu'ils se paient et qu'ils se passent de l'accès à la Freedom Collection, qu'ils avaient besoin dès le début 2014, dès l'année 2014. Donc, nous avons subi de fortes pressions pour éviter ces coupures, et certaines institutions majeures étaient même prêtes, nous ont dit, à signer, même s'il y avait une augmentation. Donc, alors qu'on n'avait pas fini les négociations, qu'on avait encore des propositions d'augmentation, on avait certains qui nous poussaient à signer. Donc, c'est compliqué de négocier. Il faut arriver à trouver une situation qui convienne, à une solution qui convienne à tout le monde, qui ne fâche pas tout le monde. Alors ensuite, la rédaction du cahier des charges et de la licence ont donné lieu vraiment à des échanges très longs. Je vous donnerai un exemple juste après. Certaines clauses ont été revues notamment, et pour vous faire rire, je vous montrerai tout à l'heure, la clause sur les robots et celle sur les réseaux sociaux. Mais le texte data mining, la question des revues phares nous ont beaucoup occupés. Et dernière limite, la mise en place d'une licence étendue à 600 établissements. Très différents. Certains privés. Tous ne relèvent pas du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est d'une complexité effroyable. Ça implique beaucoup de monde. Donc plus il y a de monde impliqué, plus la communication est difficile. Donc c'est un travail qui est complexe. Alors deux exemples sur cette question de rédaction. Donc comme quoi, c'est pas tout de négocier les conditions tarifaires. Après, il faut être très vigilant au contenu de la licence. Donc je prends qu'un exemple, la licence... La clause 1.4 sur les restrictions d'usage, il y a plusieurs alinéas, j'en prends deux. En noir, c'est la rédaction initiale des études. Donc, ils venaient nous empêcher d'utiliser des robots d'indexation, des moteurs de recherche, votre programme, téléchargement automatisé, algorithme, dispositif, servant à rechercher, récupérer, extraire, établir des liens profonds, répertoriés ou perturbés de façon continue. Vous ne pouvez rien faire. Et on s'est dit que ça peut être un frein au développement de nouveaux produits. Donc, on ne peut pas accepter cette clause. Ce qu'on a accepté, donc c'est la partie... D'ailleurs, c'est notre rédaction qui a été validée en bleu, que plusieurs échanges, c'est utiliser des robots, des programmes de téléchargement automatisés, destinés à extraire l'intégralité de la base. Effectivement, ça on peut comprendre que ce soit interdit. Ou une partie substantielle, ben ça c'est conforme au code de la propriété intellectuelle, on ne peut pas récupérer une partie substantielle d'une base de données, donc on a compris cette. On a mis entre parenthèses, sauf exception autorisée pour le TDM, parce que sinon s'ils nous donnaient d'une main, ils en prenaient l'autre, ou destiné à perturber le fonctionnement des produits souscrits, évidemment, on ne peut pas autoriser qu'on mette en place des dispositifs qui perturbent le fonctionnement. Deuxième point, on a vu ça, on n'en avait pas parlé du jour, on a trouvé dans la licence qu'il était interdit de poster des éléments individualisés à partir des produits souscrits sur des sites de réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire un élément individualisé? Alors on a dit bon, si c'est un article entier, pourquoi pas, mais en revanche, si ça veut dire qu'il est interdit de citer un paragraphe, de prendre pourquoi pas un graphique, un croquis, ça non. Donc un élément individualisé, on ne sait pas ce que c'est, donc on a dit, on accepte s'il s'agit d'un article entier. En revanche, le chercheur doit pouvoir quand même continuer à prendre un extrait d'un article pour le poster sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je suis rentrée un peu dans le détail, j'espère que ça vous a intéressé. Je n'ai pas pu rentrer dans le détail pour tout.